Nous sommes sincèrement reconnaissants au Seigneur de pouvoir croire comme le dit l'Écriture. Cette fois-ci, je dois confesser ouvertement que lorsque 4 semaines séparent les réunions, le temps est déjà très long. Quand il y a 5 semaines entre les deux, comme cette fois-ci, le temps est presque trop long, mais nous aspirons à chaque fois à être réunis en présence de Dieu et pas seulement pour parler de quelque chose, mais nous venons ici avec la seule intention dans notre cœur que le Seigneur veuille nous parler par sa parole et par son esprit à travers nous et à nous. Nous l'avons souvent dit, beaucoup parlent de Dieu, mais rares sont ceux par qui Dieu a parlé et peut parler. Rares sont ceux par qui Dieu a parlé et peuvent donc ensuite parler. Beaucoup entendent parler de Dieu, mais peu croient ce qu'il a dit. Et il s'agit simplement d'entendre la voix du Seigneur en cette époque. Et c'est toujours la voix de sa parole. Si nous entendons une voix acoustique, cela peut être le cas, mais ce n'est pas nécessaire. Mais si c'est la parole de Dieu, nous pouvons nous y fier à 100%. Même si cela peut nous sembler impossible, si nous avons une promesse dans la parole de Dieu, nous pouvons être confiants et la confier à Dieu par la foi, car il est illimité dans sa puissance et toutes ses œuvres sont glorieuses et merveilleuses dès le début. Lorsque nous lisons dans les Saintes Écritures, par exemple dans 1 Thessaloniciens 4, que nos corps seront changés, nous pourrions nous demander comment cela doit se passer. Ce n'est pas du tout nécessaire. Si toi et moi devions le faire, nous aurions besoin de nous poser des questions à ce sujet. Mais le Seigneur le fera et il sait déjà comment et quand il le fera. Et nous pouvons donc nous en remettre entièrement à lui. Il en va de même pour le salut de l'âme, pour la guérison du corps, pour la délivrance de l'esprit. Qui peut l'expliquer? Qui peut le décrire? Aucun d'entre nous. Mais nous pouvons tous en faire l'expérience. Chacun peut faire l'expérience de la puissance du salut, de la puissance de la guérison, de la puissance de la délivrance de notre Dieu au nom de Jésus. Et pas seulement un jour ou l'autre, mais aujourd'hui. Au cours de ce service divin, le Seigneur veut se révéler à toi et à moi. Il veut nous bénir, toi et moi. Il veut nous parler par sa parole et par son esprit. Je voudrais me référer en particulier à 3 passages bibliques, en commençant par le prophète Agée. Dans le prophète Agée, je lis à partir du verset 12 du premier chapitre. Alors, Zorobabel, fils de Zéatil, Josué, fils de Josadak, le souverain, sacrificateur, et tous ceux qui restaient du peuple écoutèrent l'avertissement de la voix du Seigneur, leur Dieu, c'est-à-dire les paroles d'Agée, le prophète, comme ils le reconnaissaient en tant que celui qui leur était envoyé par le Seigneur, leur Dieu. Oui, le peuple fut saisi de crainte devant le Seigneur. Si nous ne faisons que très brièvement, et il ne s'agit pas d'un sermon, d'une prédication dans ce sens, mais d'une instruction biblique, d'un enseignement tiré des paroles de Dieu, conformément à la parole prophétique qui a une signification jusqu'à dans notre temps. Ici, le prophète se réfère au retour du peuple d'Israël de la captivité à Babylone et au début de la reconstruction du temple du Seigneur. La chose merveilleuse ici dans cette parole est que ceux qui ont été désignés par Dieu pour le servir et tout le peuple ont suivi d'un commun accord la voix de l'Éternel, leur Dieu, et ont écouté les paroles du prophète Agé que l'Éternel leur avait adressées par son intermédiaire. De tout temps, lorsque quelque chose d'extraordinaire devait se produire, Dieu a toujours eu un porte-parole sur terre. Quelqu'un par qui, à travers duquel il a parlé. Et il est toujours écrit dans Amos 3, verset 7, que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs et les prophètes. Ici, nous avons listé deux hommes de Dieu, mais pas seulement eux, mais tout le peuple. Je relis la deuxième partie du verset. Et tout le reste du peuple obéit à la voix du Seigneur. À la voix du Seigneur, leur Dieu, et aux paroles du prophète Agé, comme ils le reconnaissaient en tant que celui qui leur était envoyé par le Seigneur, leur Dieu. Oui, le peuple fut saisi de crainte devant le Seigneur. Dès l'instant où Dieu envoie un prophète, nous n'avons plus affaire à un homme que nous pouvons accepter ou rejeter, ni à un homme que nous jugeons selon nos critères, mais nous avons affaire à un homme envoyé par Dieu qui a un message à apporter au peuple de Dieu ou à lui adresser. Et tous ceux qui font partie du peuple de Dieu reconnaîtront un tel envoi divin. Je viens de traduire le sermon et pour être précis, je suis encore en train de le faire. Il n'est pas encore terminé. Et frère Branham y exprime cette pensée importante que l'Esprit de Dieu agit dans chaque âge selon les promesses qui ont été écrites dans la parole de Dieu. Nous ne vivons pas aujourd'hui à l'époque de Luther. Nous ne vivons pas aujourd'hui à l'époque de Zwingli ou de Wesley ou de beaucoup d'autres. Nous sommes très avancés dans l'histoire du salut, bien qu'il puisse parfois sembler qu'il n'en est rien. Et pourtant, le temps ne s'est pas arrêté. L'histoire du salut, le temps ne s'est pas arrêté. L'histoire du salut a suivi son cours. Nous pouvons très bien voir l'évolution en regardant en arrière et aussi la prendre à cœur. Il est souligné ici que ce ne sont pas seulement les hommes auxquels la parole du Seigneur a été adressée, mais que le peuple tout entier à écouter ce que le Seigneur avait à leur dire, à prêter l'oreille à ce que le Seigneur avait à leur dire, et qu'ils ont reconnu que quelqu'un leur avait été envoyé par Dieu. Je suis un homme qui ne peut pas tourner autour du pot, mais qui doit aller droit au but. Droit au but. Et si nous voulons ou devons aller au but, alors appelons les choses par leur nom. Seuls ceux qui ont reconnu que Jean-Baptiste était un homme envoyé par Dieu ont prêté attention à sa prédication dans le Jourdain et se sont fait baptiser. Que les scribes, de leur côté, ont rejeté la décision du conseil de salut de Dieu en ne se faisant pas baptiser. Nous le savons. Pour les gens de l'époque, c'était quelque chose de tout à fait nouveau, d'extraordinaire. On aurait même pu demander où est-il écrit que le précurseur doit baptiser. On aurait éventuellement pu dire, oui, il est écrit dans le prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 3, et dans Malachie 3, verset 1, que quelqu'un viendra. Mais où est-il écrit qu'il baptisera? Vous savez, Dieu n'a pas toujours besoin de faire connaître tous les détails avec la promesse. Il donne la promesse et lorsque la promesse s'accomplit, tous les détails qui font partie de l'exécution d'un mandat divin, ils sont inclus et tout homme éclairé par l'Esprit de Dieu ne s'offusque pas. Au contraire, il n'a pas de point d'interrogation, il a juste un oui et un amen à ce que Dieu fait. Si je regarde en arrière aujourd'hui et qu'il m'est permis de faire seulement cette remarque d'ordre personnel, je dois dire ici simplement et sans détour, il ne m'a pas fallu un jour ou une heure pour que mon jugement sur le ministère de Frère Branham arrive à maturité d'une manière ou d'une autre. Je dois confesser librement et ouvertement. Lorsque j'ai regardé cet homme monter les marches de la plateforme, mon cœur s'est élevé avec lui. Et j'ai fait confiance à cet homme de Dieu sans savoir qui il était, ce qu'il était, avec un appel ou rien du tout. Mais dans mon cœur, il y avait un oui plein, un accueil direct, une réception directe. Je ne savais pas encore ce que cela impliquait et à quoi est-ce que cela était lié. Vous savez, frère, vous savez, Dieu agit dans le cœur des siens. Même le Seigneur Jésus n'a pas été bien accueilli par tout le monde. Il avait plus de détracteurs, plus de gens qui le réprimandaient et le rejetaient par rapport à ceux qui l'ont accueilli. Mais ensuite, il y a cette belle parole. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Dieu fait toutes choses d'une manière inhabituelle et les hommes pourraient en quelque sorte s'accrocher derrière cela. On aurait pu dire à Jean-Baptiste, homme, s'il te plaît, habille-toi raisonnablement, s'il te plaît. Toi, avec ta peau de chameau là et ta ceinture de cuir, tu te nourris de sauterelles et de miel sauvage. Oh, homme, va donc dans le désert. Qu'est-ce que nous avons à faire avec toi? Et quelqu'un a dit qu'à cette époque, on ne se baignait pas tous les jours. Les gens y allaient avec la chaleur, avec la sueur, avec la poussière, avec tout. Mais ce n'était pas l'apparence qui comptait si les sandales étaient poussiéreuses ou pas. Ce qui comptait, c'était qu'il y ait quelqu'un au milieu d'eux par qui une partie de la parole de Dieu s'accomplissait. Même à cette époque, maintenant, aujourd'hui, s'il était question d'un Billy Graham ou d'un orateur quelconque, vous savez qu'il y a de bons orateurs, personne ne peut le nier. Il l'aurait peut-être accepté ou accueilli. Mais maintenant, c'était un homme des montagnes du Kentucky. Un homme dont l'anglais ne se retrouve pas sur terre, qui a directement associé son dialecte à la langue et qui a mélangé les cas de manière à ce qu'il faille les trier soigneusement. Et les sages et érudits lisent là une telle brochure et le sermon, puis secouent très brièvement la tête et disent « On ne peut exiger de personne qu'il continue à lire ici, ni lui faire confiance. » Paul n'a-t-il pas dit que Dieu a réduit à néant la sagesse des sages et qu'il a plu à Dieu par une prédication folle, par la folie de la prédication, de rendre bienheureux ceux qui croient en lui, de sauver ceux qui croient en lui? Et Paul a dit, « Quand je suis allé chez vous, je ne suis pas venu avec des paroles de sagesse ou d'éloquence humaine, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et c'est ce qui a toujours compté et qui compte tout particulièrement dans notre temps. Nous allons nous dépêcher de poursuivre la lecture du même chapitre au verset 13. Agé 1, verset 13. Ici, frère Franck lit la traduction de Martin Luther. Alors, Agé, l'ange du Seigneur, qui avait le message du Seigneur pour le peuple, dit, « Je suis avec vous, dit le Seigneur. » De quoi s'agissait-il? Ici, il y avait là un homme. Un de ceux que l'on compte parmi les prophètes mineurs, qui se présenta au milieu du peuple et que l'on appelle un ange. Agé, l'ange du Seigneur, prit alors la parole. Vous savez que le mot ange et le mot messager sont les mêmes dans le texte original. C'est quelqu'un qui est au service et qui transmet un message. Agé, l'ange du Seigneur, qui avait le message du Seigneur pour le peuple, prit la parole. Il y avait là un homme qui était appelé l'ange du Seigneur, donc en tant que messager du Seigneur, qui avait le message du Seigneur dans son temps. Pour moi, c'est un mot très important. Une parole très importante. Quand un messager du Seigneur se présente, il a un message du Seigneur et non pas un message d'une dénomination ou d'une organisation chrétienne, dite chrétienne, mais un message du Seigneur au peuple de Dieu. Agé, l'ange du Seigneur, prit alors la parole. Qui avait le message du Seigneur, prit la parole. Alléluia. Pour moi, c'est d'une importance capitale. De nos jours, beaucoup parlent, apportent des messages puissants. La question est, qui est l'ange du Seigneur? Qui a le message du Seigneur? Qui a parlé sous un ordre, sous un mandat divin? Nous savons qu'il est écrit qui a parlé sur l'ordre de Dieu, sur l'ordre de Dieu. Vous savez qu'il est écrit 7 fois dans l'Apocalypse 2 et 3, et à l'ange de l'église d'Éphèse écrit, et à l'ange de l'église de Smyrne, vous connaissez les 7 églises. C'est toujours à l'ange, au messager, que le message a été adressé. Et ce message divin a ensuite été apporté à l'Église, tel que le Saint-Esprit l'a fait connaître et révéler. Voici Agé, un homme du peuple, et il est appelé l'ange du Seigneur qui avait le message du Seigneur pour le peuple de Dieu. Le Seigneur dit par son intermédiaire, « Je suis avec vous !» Ainsi parle le Seigneur. Que s'était-il passé? Tout le peuple avait reconnu que Dieu leur avait envoyé un messager. La crainte s'était emparée d'eux. Ils sont devenus unanimes. Ils se sont unis et se sont rangés derrière cette mission divine, derrière ce mandat divin, acceptant et recevant de tout cœur ce que Dieu leur avait offert, donné. Et au moment où le messager et ceux qui acceptent le message sont d'accord, sont unis, sont unanimes et font pleinement confiance au Seigneur, c'est à ce moment-là que Dieu répondra et dira, « Ainsi parle le Seigneur, je suis avec vous. » Nous poursuivons alors notre lecture. Au verset 14, « Et le Seigneur réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shéatil, prince de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. » Donc, non seulement l'esprit, pas seulement l'esprit de Zorobabel, pas seulement l'esprit de Josué, c'est-à-dire de ceux qui étaient chargés d'un service, qui avaient à exécuter un ministère, qui avaient reçu un mandat, une mission par le Seigneur, mais aussi l'esprit de tout le reste du peuple pour qu'ils viennent travailler dans la maison du Seigneur, Sébaoth, leur Dieu. À l'époque où Dieu a fait cela, il y avait un accord, un commun accord total avec les prophètes envoyés, entre les prophètes envoyés, entre les hommes appelés à collaborer et entre l'ensemble du peuple. Avec ces différentes personnes et avec le peuple. Pour l'exprimer de manière simple ou facile à comprendre, une harmonie divine s'était créée lorsque Dieu avait fait connaître sa parole et sa volonté par le « ainsi par le Seigneur » du message divin parmi son peuple. Cette harmonie, cette union est venue de ce message, de cette parole qu'ils ont reçue. Les gens ont été arrachés à leurs propres opinions, à leurs traditions, à leurs credos, à leurs interprétations. Et Dieu a mis dans leur cœur de croire, de participer, de devenir une partie de la chose divine, de la cause divine. C'est mon souhait le plus cher, faire partie de l'œuvre de Dieu à cette époque. Ne pas être seulement spectateur, mais faire partie intégrante de ce que Dieu fait par grâce dans son royaume, dans ce temps, maintenant, aujourd'hui. Il est ensuite dit au chapitre 2, du verset 3 au 4 ici, Agé 2, verset 3, il lit toujours dans la tradition Luther. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire passée? Et comment la regardez-vous maintenant? N'est-ce pas ainsi que vous pensez qu'elle n'est rien? Qu'elle n'est rien? Vous savez que la maison de Dieu était détruite. Et les très vieux, ceux qui ont survécu à la captivité se souvenaient encore de la magnifique maison de Dieu. Ils se souvenaient des offices, des services divins solennels. C'est là que la question leur a été posée. Qui est resté parmi vous pour voir cette maison dans sa gloire passée? Et ensuite, comment est-elle aujourd'hui? À vos yeux, nous sommes ici cet après-midi pour prendre à cœur les actes d'apôtres et les avoir sous les yeux et pour considérer l'Église du christianisme primitif comme le temple de Dieu et constater à quoi ressemblait l'Église au début. Comment Dieu s'est manifesté par elle et en elle, qu'il a fait sa demeure au milieu d'elle et qu'il s'est glorifié ici sur terre. Si nous comparons aujourd'hui l'Église du Seigneur d'autrefois avec celle d'aujourd'hui, nous nous trouvons dans la même situation que les hommes d'autrefois. Extérieurement, certaines choses sont peut-être encore très belles. Mais qu'en est-il aux yeux de Dieu? Comment Dieu lui voit les choses? Nous sommes en train de revenir au premier état dans lequel se trouvait l'Église au début. Dieu agira par sa parole, par le sang de l'agneau et par le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'un reste soit appelé à sortir et à devenir son corps, qu'il soit préparé et placé à nouveau à son service. Il est dit ici encore, Agé 2, verset 4, « Maintenant, prends courage, Zorobabel, dit la c'est la déclaration du Seigneur, et prends courage, Josué, fils de Josadac, toi le souverain sacrificateur, et prenez courage, vous tous qui formez le peuple du pays. » Personne n'était laissé de côté. Les deux personnes auxquelles la parole du Seigneur a été adressée directement, en tant que collaborateurs dans toute l'affaire, ainsi que tout le peuple, devaient tous être confiants et reconfortés. Et derrière tout cela, il y a la merveilleuse déclaration, « Ainsi parle le Seigneur !» Et travaillez, car je suis avec vous. C'est la déclaration du Seigneur des armées. Travailler dans le royaume de Dieu, un travail dans le royaume de Dieu n'a que un sens que si Dieu est avec nous et si nous exécutons ses ordres et faisons ce qu'il nous a ordonné de faire et faisons ce qu'il nous a commandé. Aujourd'hui, s'il vous plaît, ce n'est pas une critique, juste une constatation. Chaque dénomination travaille à sa manière. Le royaume de Dieu est pourtant tout le reste, mais pas le royaume de Dieu. Chacun se dirige dans une direction différente. Il n'y a qu'une seule direction. Et ce n'est pas celle des différentes dénominations, mais celle qui mène vers Golgotha, vers le haut, dans la gloire de Dieu. En passant par Golgotha, une seule direction, vers la croix et le crucifié. Et par Golgotha, vers la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu. Au verset 6 ensuite, il est dit, Agé 2, verset 6, « Car ainsi parle le Seigneur des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et la terre ferme. » Permettez-moi de lire brièvement le chapitre 12 des Hébreux. Je voudrais lire ici le verset 25. Hébreux, chapitre 12, ici je voudrais lire le verset du verset 25. Prenez garde de ne pas rejeter celui qui vous parle, de ne pas refuser de l'écouter, car si ceux qui ont rejeté celui qui s'est fait connaître à eux sur la terre n'ont pas échappé au châtiment, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut du ciel. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, disant, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Avez-vous constaté à quel point ces deux passages bibliques concordent. L'Ancien et le Nouveau Testament concordent toujours, car la partie prophétique de l'histoire du salut a déjà été établie dans l'Ancien Testament. Ici, il est dit très clairement dans le prophète Agée, comme nous l'avons lu dans l'Ancien Testament, encore un peu de temps. Et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et la terre. Ici, dans le Nouveau Testament, nous lisons Hébreux 12, 26, dont la voix en ce temps-là ébranlait la terre. Mais maintenant, il promet et il dit. N'oubliez pas ce mot « promet ». Ici, il y a une promesse. Et l'écrivain des lettres aux Hébreux voit une promesse dans la parole prophétique d'Agée. Et nous devons nous aussi voir cette promesse. Il ne suffit pas que le rédacteur des lettres aux Hébreux dise cette promesse ou bien vit cette promesse. Toi et moi, nous vivons en effet à l'époque où cette promesse s'accomplit parmi tant d'autres. Donc, toi et moi verrons et reconnaîtrons cette promesse. Voyons et reconnaissons cette promesse. Il est dit ici, mais maintenant il promet et dit, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Oh, nous pourrions maintenant passer à une série de passages bibliques. Que dit la parole prophétique? Osée 2, verset 23. Et puis en ce jour-là, je ferai complaisant, dit le Seigneur. Je ferai la volonté du ciel et le ciel fera la volonté de la terre. Dieu a parlé d'un temps très particulier à la fin des jours. Et nous sommes arrivés à l'époque où le ciel et la terre doivent être ébranlés. Et vous verrez, c'est ici que ça se passe. L'explication vient ici en parole. Dans la parole de Dieu, ça continue. Hébreux 12, verset 27 maintenant. Le mot « encore une fois » indique la transformation de ce qui est ébranlé parce que c'est une chose créée et doit justement en résulter quelque chose de permanent qui ne peut être ébranlé. Dans ce contexte, on parle de la transformation de ce qui est éphémère en ce qui est permanent. Avant que toute la création, et vous le savez, il est écrit dans le chapitre 8 des Romains que les fils de Dieu et toute la création attendent la manifestation des fils de Dieu. Mais avant que le changement puisse avoir lieu, le ciel et la terre doivent encore être ébranlés. Et c'est cette promesse que nous voulons suivre un peu. Je lis le chapitre 1 d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 1 du verset 9. Ici il est écrit, car il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir tel qu'il l'avait conçu en lui. Traduction Luther. Afin qu'il fût mis à exécution lorsque les temps seraient accomplis pour que toutes choses fussent réunies en Christ les uns et les autres, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre par lui. Traduction Luther. Tout doit être réuni en Christ. Les choses qui sont dans le ciel et les choses qui sont sur la terre. Et si nous nous rapprochons un peu plus de cette question et que nous y pénétrons plus profondément, nous pourrions aller au chapitre 4 de l'Apocalypse et constater que Jean a été amené en esprit dans la gloire céleste. mais que les choses qu'il a vues dans le ciel trouveraient leur accomplissement sur la terre, du moins dans la partie qui concerne les choses terrestres de l'Église d'Israël et des nations. C'est ce que dit l'Apocalypse, chapitre 4, du verset 1. Traduction Luther. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue me parla comme une trompette, disant, « Monte ici, je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » Et aussitôt, je fus en esprit, et voici un trône était placé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur ce trône. Que s'est-il passé ici? Jean se trouvait sur l'île de Patmos. Il a été amené en esprit dans la gloire céleste. Mais les choses qui lui furent autrefois révélées, montrées, ont en effet été révélées de nos jours. Ce qu'il devait sceller a été ouvert dans la génération. Ce qui était caché dans le ciel a été révélé a été fait connaître sur la terre. Le même Seigneur qui a fait venir Jean sur l'île de Patmos et lui a montré ces choses, a envoyé frère Branham et lui a fait connaître les mêmes choses. C'est aussi certain que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je dis cela en toute connaissance de cause, conscient des conséquences et de la portée. Il n'est plus possible que quiconque reste dans le doute à ce sujet. Car celui qui doute ne pense pas, car il est écrit que celui qui doute ne pense pas recevoir quelque chose de Dieu. La parole de Dieu te passera sous le nez si tu es assis sur le coup de la parole dans le doute. Sa parole doit être associée à la foi. Bien sûr, il est facile de croire que Moïse a été envoyé par Dieu, que Élie a été envoyé par Dieu, que tous les prophètes, tous les apôtres, que Jean a été envoyé par Dieu. C'est facile à croire. Et on peut même orner les tombes de ces prophètes et dire, comme les scribes, nous nous en tenons à Moïse, les autres, nous avons Abraham pour père, etc. Et le Seigneur a dû leur dire, si vous aviez reconnu Moïse, vous me reconnaîtriez aussi, car il a rendu témoignage de moi. Et selon Jean 8, le Seigneur leur a dit, « Avant qu'Abraham soit, je suis. » Et ils ont dit, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu aurais vu Abraham. » Qu'est-ce que c'était? La même erreur a été commise à toutes les époques. On a vu ce que Dieu a fait dans le passé, mais on a toujours passé à côté de ce que Dieu fait actuellement. Et il y a des millions de croyants, de gens sincères qui passent à côté de ce que Dieu fait maintenant, en ce moment, dans ce temps présent. Et pourquoi? Simplement parce qu'ils n'ont pas su reconnaître un envoi divin et distinguer un mandat divin de toutes les autres missions. Ils ont tout mis dans le même sac et on dit, ah, le Branham et le, ce sont tous des évangélistes américains et ils en ont vite fini avec ça. Mais Dieu n'a pas encore fini là où nous pensons avoir fini. C'est là qu'il commence à nous parler à toi et à moi. Et lorsqu'un homme de Dieu, de notre génération, a été béni et utilisé de manière aussi puissante pendant 33 ans, et que le 11 juin 1933, vers 14 heures, en présence d'environ 4000 personnes, il a été appelé d'une nuée de lumière visible et surnaturelle, comme Jean a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ainsi tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Alors, ce n'est donc pas une chose à côté de laquelle toi et moi pouvons passer sans subir de dommages à notre âme. Si Dieu a parlé, Dieu a parlé. Alors toi et moi devons écouter et ne plus parler. Ce qui est triste en ce moment, c'est que les gens parlent tant et qu'ils disent oui, je n'ai pas vu, je n'étais pas là, etc. Mais as-tu vu lorsque la lumière est venue sur le Sauveur et que Jean a rendu son témoignage? As-tu assisté au moment où Dieu a parlé à Abraham et à tous ses serviteurs? Nous croyons les paroles de Dieu, nous croyons ce qui nous a été transmis dans les Saintes Écritures. Et quand nous voyons que Dieu a fait exactement la même chose à notre époque, cela ne fait que nous rappeler Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. À quoi cela sert-il pour toi et pour moi de savoir ce que Dieu a fait tout au long du passé, pendant plus de 6000 ans, si nous ne savions pas ce qu'il fait en ce moment conformément à ses paroles? Donc, nous avons la promesse dans la parole de Dieu que le Seigneur ébranlera encore une fois le ciel et la terre. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est expliqué que cela indique une fois de plus que ce qui est passager sera transformé en ce qui ne l'est pas. Et à cela est en effet lié l'appel à l'ordre, l'avertissement suivant. Veillez à ne pas rejeter celui qui vous parle du haut des cieux. Donc, ainsi, avant que Dieu n'ébranle le ciel et la terre, avant qu'il ne rassemble toutes choses et ne les mène à leur thème, à leur achèvement, il commence à parler. Et si nous prenons à ce sujet Apocalypse 10, verset 7, une parole très souvent citée, « Au jour où retentira la voix du septième ange, le mystère de Dieu arrivera à son terme, tel qu'il a révélé d'une manière sûre à ses serviteurs, les prophètes, comme un message de joie ou un évangile. » L'action de Dieu est liée. Donc, l'action de Dieu est liée à sa parole. Et son action est liée à sa parole. Dieu n'agit pas sans parler. Dieu ne parle pas sans agir. Les deux sont une étape et en entraînent une autre. Ici, en lien avec la parole de Dieu, va encore une fois. Ici, en lien avec la parole, que Dieu va encore une fois ébranler ciel et terre, il nous est dit, prenez garde de ne pas rejeter celui qui vous parle. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'un frère Franck ou de n'importe qui d'autre. Aujourd'hui, il s'agit du Seigneur ressuscité lui-même qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or dont il est attesté dans Apocalypse chapitre 1 au verset 20 qu'il tient fermement dans sa main droite les sept étoiles, c'est-à-dire les sept anges aux sept églises. Et si Agé était un ange du Seigneur avec un message de Dieu et que le peuple a été convoqué et qu'ils ont été amenés à l'unité d'esprit, dans l'esprit, pour aller de l'avant, pour se mettre à construire la maison de Dieu, alors nous devons dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de construction de Dieu, pas d'édifice de l'église de Dieu, à moins que nous ayons reconnu en tant que peuple de Dieu que Dieu a envoyé un messager avec une parole du Seigneur adressée à l'église. Et donc, l'avertissement, prenez garde de ne pas rejeter celui qui parle. Pourquoi est-il écrit sept fois dans Apocalypse 2 et 3 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises? Par qui l'Esprit parle-t-il? Par la parole. À qui la parole s'adresse-t-elle? Au prophète. À qui vient-elle? Au prophète. Et Dieu a envoyé un prophète et a adressé un message à son peuple. Et il faut dire aujourd'hui, très clairement, sur la base des Saintes Écritures, qu'il y aura deux unions et peut-être dans l'une d'elles encore de nombreux groupements qui sont un entre eux et qui, dans l'ensemble, parviennent à une unité sous un patronage mondial, un patronage mondial. Mais remarquez que dans cette unité humaine, chacun continue à croire ce qu'il veut. On ne fixe que certains points sur lesquels on est d'accord. Le reste, chacun le laisse à chacun. Dans l'unité divine, cela n'existe pas. Là, chacun ne peut pas faire ce qu'il veut. Chacun ne peut pas croire ce qu'il veut. Mais chacun qui a entendu réellement le message divin s'accordera. Et pour qui la parole est devenue une réalité vivante, s'accordera avec l'Esprit qui a donné la parole. Et c'est ainsi que nous parvenons à l'unité spirituelle en Jésus-Christ, qui est en effet la parole révélée. La parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Si donc, à l'époque, ces gens sont devenus unis lors de la reconstruction du temple. Et à quel moment? Quand est-ce qu'ils se sont unis? Lorsque Dieu a envoyé au milieu d'eux un prophète, décrit comme un ange du Seigneur, qui s'est présenté avec un message de Dieu qu'ils avaient reconnu. Ils ont écouté ce message, se sont réunis et ont été unanimes et se sont rassemblés, et la gloire de Dieu était de nouveau là. Et vous savez, la promesse qui est faite ici, nous pouvons aussi l'appliquer à notre époque. Elle est indiquée deux fois, une fois au verset 9, une fois au verset 10 de cette traduction. Il est dit ici, Agé 2, verset 9, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit le Seigneur des armées. Et je donnerai la paix dans ce lieu, dit le Seigneur des armées. » La gloire de la deuxième maison devrait être plus grande que la gloire de la première. Et si nous croyons que Dieu restitue tout, rétablit tout, restaure tout, qu'il rend tout à l'Église, pourquoi ne pouvons-nous pas croire aussi qu'il est capable de donner une double mesure comme à Élisée, et de l'offrir maintenant à l'Église? Une fois Dieu a ébranlé, a ébranlé le ciel une fois, il a ébranlé la terre. Mais maintenant, il veut ébranler le ciel et la terre. Et ce une fois de plus se réfère directement à la fin des temps, lorsque ce qui est corruptible sera transformé en incorruptibilité et ce qui est mortel en immortalité. Et dans ce contexte, et permettez-moi d'insister au nom du Seigneur, il nous est dit, veillez à ne pas rejeter celui qui parle. Oui, vous dites, il est écrit ici que le Seigneur parlera. N'était-il pas écrit ou n'est-il pas écrit de la même manière? Lorsque le prophète Agé a ouvert la bouche, que c'était le Seigneur qui avait parlé. Comment le Seigneur a-t-il parlé? Par la bouche de ses serviteurs et de ses prophètes qu'il a oint du Saint-Esprit, qui ne pensait plus à, qui ne pensait pas de leurs pensées, mais qui était sorti d'eux-mêmes, de sorte que Dieu pouvait lui-même parler à travers eux. Si l'on voit les choses ainsi, cela passe simplement de l'un à l'autre. D'un côté, il est dit, Agé parla au peuple. Et à la fin, il est dit, ainsi parle le Seigneur. Je vais vous relire le verset, c'est dans Agé, chapitre 1, verset 13. Alors Agé, l'ange du Seigneur, qui avait le message du Seigneur pour le peuple, dit, je suis avec vous, dit le Seigneur. Oui, dit le Seigneur. Qui était ce « je suis avec vous » On entendait la voix d'Agé. Mais c'est qui disait « je suis avec vous » On voyait sa bouche s'ouvrir et se fermer. Mais Agé avait toujours été avec eux. Cela n'aurait rien signifié de spécial pour eux qu'il dit « je suis avec vous ». Mais le Seigneur des armées, qui adressait son message au peuple par l'intermédiaire d'Agé, il disait, je suis avec vous. Ainsi parle le Seigneur. Alléluia. Oui, vous pourriez peut-être dire que si vous êtes critique, il pourrait arriver que si vous ne connaissez pas encore tout à fait l'ordre divin, excusez-moi, ce n'est pas de l'arrogance, pardonnez-moi cette façon de parler, mais il pourrait arriver que l'un ou l'autre critique dise, oh là là, ces gens-là, ils écoutent tout cela, ce Branham qui a pourtant déjà été rappelé à la maison en décembre 1965. Non, alors vous n'avez pas compris la chose. Nous avons certes perçu en écoutant la voix humaine d'un frère Branham, mais nous avons entendu derrière cette voix humaine des paroles vivantes du Dieu vivant, des révélations du Tout-Puissant à notre époque. À l'époque, autrefois, on aurait pu dire, Agé, homme, toi, nous te connaissons tous. Que fais-tu de toi-même ici? Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Celui qui est né de Dieu entend la parole de Dieu. Et tous ceux qui sont nés de Dieu sont dans la vérité. Et la vérité et la parole de Dieu est la vérité. Et nous connaîtrons la vérité. Et elle nous libérera, affranchira de toute erreur. Il s'agit ici du passage biblique le plus pertinent que nous puissions lire en comparant l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Seigneur a parlé, et c'est précisément par ce prophète qu'il s'est exclamé, « Car ainsi parle le Seigneur des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. » Agé 2, verset 6. Puis, comme nous l'avons lu, il nous est dit ici, dont la voix en ce temps-là ébranlait la terre. Mais maintenant, il promet et dit. Encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. C'est ce que nous lisons ici dans l'Épître aux Hébreux. Et cette fois encore, ce mot « cette fois encore », cela devrait se produire à la fin des temps, lorsque le mobile sera transformé en immobile, le mortel en immortel, le corruptible en incorruptible, avant que cette transformation puisse avoir lieu, ce changement puisse avoir lieu, les deux premiers versets doivent être accomplis. L'avertissement à ne pas rejeter celui qui nous parle. As-tu compris? Ai-je compris? Qui est celui qui nous a parlé? La femme au puits. Ici, le Seigneur a dit, si tu savais qui est celui qui te parle, si tu lui demanderais et il te donnerait de l'eau vive à boire. Est-ce que tu as, est-ce que j'ai entendu et reçu les paroles du Seigneur dans ce temps présent ou est-ce que nous avons rejeté, repoussé le Seigneur? Alors il est écrit, prenez garde de ne pas rejeter celui qui parle, car si ceux qui le repoussaient quand il parlait sur la terre n'ont pas échappé au jugement, à plus forte raison, nous, à combien moins forte raison, nous, si nous rejetons celui qui parle du haut des cieux? En ce temps-là, Dieu nous a parlé puissamment à toi et à moi par sa parole révélée. Autrefois, il a fait dire par la bouche du prophète Agé au moment de la reconstruction du temple. Aujourd'hui, à la fin des temps, alors que l'Église est reconstruite, comme elle était au commencement, afin que la gloire de Dieu puisse descendre. Le Seigneur a encore envoyé un message prophétique à son peuple. Heureux celui qui l'écoute, qui l'accepte, qui reconnaît le temps et l'heure dans lequel nous vivons. Avant que nous puissions recevoir le message, nous devons ouvrir les yeux sur le fait que Dieu a envoyé un messager, pas quelqu'un qui se serait appelé lui-même ou qui serait parti de lui-même, mais un homme envoyé par Dieu avec un message de Dieu pour son peuple, pour vous, à qui cela est peut-être nouveau. Je voudrais vous dire que si c'est nouveau, cela ne doit pas signifier que ce n'est pas vrai. Tout a été nouveau une première fois lorsque Dieu l'a prononcé. Mais lorsqu'il nous est révélé par l'Esprit, nous reconnaissons qu'il s'agit de la parole sainte de Dieu qui s'accomplit littéralement sous nos yeux aujourd'hui. Autrefois, le peuple d'Israël est revenu de la captivité de Babylone. Ils ont foulé le sol de la promesse. Ils sont revenus sur la terre de leur père. Le message prophétique fut délivré. Ils se mirent à construire le temple. Dieu fit savoir, Dieu fit parler. Ils avaient du courage, non seulement ceux qui servaient, mais aussi tout le peuple. Et ils étaient unis au nom du Seigneur, sous le message divin de la parole de Dieu pour ce temps d'autrefois, pour cette époque. Résumons en disant, Dieu a fait sortir l'Église de la captivité spirituelle babylonienne étape par étape et a fait passer un message prophétique à la fin des temps, a fait retentir un message prophétique à la fin des temps afin que nous cessions d'avoir des opinions différentes et que les sentiments, les pensées de Jésus-Christ habitent en nous tous, et que l'Esprit de Dieu nous conduise dans toute la vérité. Que s'est-il passé? Le messager et le message, et tout le peuple qui l'avait reçu était uni, unanime. Il en est de même aujourd'hui. Le messager, le message et tout le peuple de Dieu ne forment qu'un seul cœur et qu'une seule âme et sont en parfait accord avec Dieu et la parole de Dieu. Et nous ne rejetterons ni ne refuserons d'entendre celui qui nous a parlé, car nous avons reconnu que c'est le Seigneur lui-même qui nous a parlé de manière merveilleuse en ces jours. Et si la promesse a été faite à la fin que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première, et qu'il est écrit « Ainsi parle le Seigneur des armées », alors nous pouvons être sûrs qu'il se passera au moins autant de choses à la fin qu'au début. Et si nous avons trouvé grâce devant Dieu et avons entendu sa voix, si nous avons tout reçu, il nous mènera à ce qu'il se manifeste puissamment dans notre vie et au milieu de nous par grâce. Loué soit son saint nom, soit son saint nom. Il ne nous reste plus qu'à lire la courte parole précédente, le baptême auquel nous nous rendrons juste après, tiré du chapitre 2 des Actes des Apôtres, en commençant par le verset 37. Actes Apôtres 2, verset 37. Lorsqu'ils entendirent cela, ce fut comme un coup de poignard dans leur cœur et ils se tournèrent vers Pierre et les autres apôtres et demandèrent, « Que ferons-nous, chers frères ?» Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez aussi le don du Saint-Esprit. Car cette promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin que notre Seigneur Dieu appellera en aussi grand nombre. » Il leur adressa aussi des paroles pressantes en bien d'autres termes, les avertissant. Sauvez-vous de cette génération perverse. Mais ceux qui acceptèrent volontiers sa parole furent donc baptisés et furent ajoutés ce jour-là à environ 3000 âmes. Mais ils demeuraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'empara aussi de toutes les âmes et il se fit beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. C'est toujours la traduction Luther. Or, tous ceux qui avaient cru étaient ensemble, gardant toutes choses en commun. Nous connaissons les Saintes Écritures. Il n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Il est dit ici que les gens qui ont entendu cette prédication ont été pénétrés et ils ont demandé, « Chers frères, que devons-nous faire pour que, etc. » Et ensuite, la réponse, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Vous savez que notre Sauveur a donné l'ordre de mission dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, et qu'il y a garder le nom caché, qu'il a seulement dit les trois révélations de Dieu, à savoir, et baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, ce nom est révélé comme étant Jésus en qui Dieu s'est manifesté comme Père, Fils et Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Cela aussi ne peut être compris que par celui à qui Dieu l'a montré. Celui qui n'a que la lettre n'y parviendra pas. Il dira, oui, le Seigneur a bien dit ceci et cela dans Matthieu 28. Et Pierre, Philippe et Paul ont dit aussi autre chose. Non, personne n'a dit autre chose. Le Seigneur a donné l'ordre et les apôtres et les disciples l'ont exécuté. Si l'on demandait, quel est donc le nom du Père? Quel est le nom du Fils? Et quel est le nom du Saint-Esprit? Nous devons tous en arriver à cette conclusion. Et il est d'ailleurs écrit au singulier. Et baptisez-les dans le nom. Pas dans les noms, mais dans le nom. Donc, un nom qui est au-dessus de tous les noms, en qui seul se trouve le salut, la rédemption, le pardon. Ce nom est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en ce nom que tous les croyants ont été baptisés. Maintenant à vous qui êtes devenus croyants, qui avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, qui pouvez croire et qui avez la certitude que vos fautes et vos péchés sont expiés et pardonnés, vous avez aujourd'hui la possibilité de conclure l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu. Vous le savez, c'est à Golgotha que Dieu a fait alliance avec nous. Et Pierre poursuit en écrivant que le baptême ne signifie pas la purification des souillures de la chair, mais l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Tu réponds à ton alliance ou tu rends à ton tour solide et sûr l'alliance que Dieu a conclue avec toi. De ton côté, comme il est écrit, que nous pouvons affirmer notre vocation et que nous devons affirmer notre appel et notre élection. Dieu a donné son oui en son Fils à Golgotha, à toi et à moi. Il a dit oui à toi et à moi pour te recevoir, pour t'accueillir comme sa propriété. Maintenant, tu as entendu sa parole, tu lui as dit oui, tu es venu à lui et tu as vu Jésus sur la croix dans la foi. Et tu as pu croire qu'il a porté là, tu as pu saisir qu'il a porté là tes fautes, tes péchés, qui les a expiés et pardonnés. Et tu peux chanter avec ce cantique. Celui qui voit Jésus sur la croix, dans la foi, sera sauvé à l'heure même. S'il y a ici aujourd'hui quelqu'un qui n'a pas encore la certitude du salut, vous n'avez pas besoin de partir ainsi. Nous allons encore prier ensemble et demander à Dieu qu'il sauve tous ceux qui ne sont pas encore sauvés, qu'il pardonne à ceux qui n'ont pas encore été pardonnés et qu'il guérisse ceux qui ont une quelconque souffrance ou infirmité. Dieu a fait la promesse. Il l'accomplit envers toi et moi. Il dit seulement, « Oh, si tu pouvais croire, tu verrais la gloire de Dieu. » Combien d'entre vous peuvent croire de tout cœur que Dieu a envoyé son messager, son ange, avec son message à son peuple en ce temps. Et qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une grande responsabilité de vivre maintenant dans cette génération et que l'avertissement nous est adressé de ne pas rejeter celui qui nous parle depuis le ciel. Combien croient que le Seigneur a parlé? Quand bien croit qu'il s'agit du message divin adressé à son peuple en ce temps. Et j'espère que personne n'aura l'idée de dire « Maintenant, ils font une chose spéciale avec Frère Branham. Je vous demande. » Et si nous regardons en arrière aujourd'hui, bien sûr, la communauté religieuse luthérienne, elle regarde à Luther. Pour elle, il signifie beaucoup parce que Dieu l'a utilisé de manière puissante. D'autres regardent Calvin, d'autres regardent Zwingli, d'autres regardent William Booth, d'autres regardent John Wesley, d'autres regardent les grands évangélistes, Wickfield et qui ils étaient tous, Moody et Singhi et qui ils étaient tous. Si nous reconnaissons aujourd'hui que Dieu a envoyé non seulement un évangéliste, non seulement un enseignant, mais selon sa promesse, son serviteur et prophète, voulez-vous que nous passions à côté? Pourquoi les gens ne sont-ils pas passés à côté de Luther lorsqu'il a apporté le message? Pourquoi pas à côté de Wesley? Pourquoi pas à côté de Booth? Pourquoi pas tous les hommes de Dieu? Et nous devrions passer à côté aujourd'hui d'un homme de Dieu? Alors je vous le dis, la vérité, je vous le dis la vérité. Tout, je vous le dis selon la vérité. Dieu a donné une telle confirmation dans le ministère de Frère Branham qu'il n'en a pas été donné dans tout les âges, et si on veut tous les réunir ensemble. De grands miracles et signes ont eu lieu. Et ce qui a encore plus de valeur, tous les autres ont placé certaines vérités bibliques sur le chandelier. Et à la fin des jours, tout le conseil de salut de Dieu, tout l'enseignement biblique, tout a été restitué, ramené dans l'Église du Dieu vivant. Et si une comparaison peut être faite, bien qu'elle soit humaine, nous pouvons dire que Dieu a parlé directement avant que le ciel et la terre ne soient maintenant ébranlés, avant que le corruptible ne soit changé en incorruptible. Dieu a parlé encore une fois d'une manière merveilleuse et surnaturelle. Bien-aimé, bienheureux, celui qui l'écoute et ne le rejette pas, car c'est bien ce qui est écrit. Si ceux-là n'y ont pas échappé, comment échapperons-nous? Je suis convaincu que si vous relisez certaines choses, si vous priez à ce sujet et si vous scrutez les Saintes Écritures, pas votre livre de texte, pas vos interprétations, pas ce que d'autres ont dit, comparez ce qui a été prêché avec les seules paroles de Dieu, car tout message divin est un message de la parole de Dieu. Amen. Levons-nous. Père Céleste, ensemble, nous venons devant ta sainte face dans le précieux nom et saint nom de Jésus. Et nous te remercions pour ta présence et pour les promesses que tu nous as faites pour le salut, pour la guérison et pour la délivrance. Nous devrions proclamer l'évangile de Jésus-Christ, un joyeux message, un message libérateur et béatifique de salut par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ô Dieu, ensemble nous croyons et demandons maintenant et nous prions pour tous ceux qui veulent remettre leur vie entre tes mains. Ô Seigneur, accepte-les comme ta propriété. Pardonne toute faute et tout péché. Lave plus blanc que la neige. Donne une nouvelle vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, ton Fils seul engendré par toi. Oh, nous te remercions, Seigneur fidèle. Tu nous as parlé. Nous ne pouvons et ne voulons pas te rejeter. Bien au contraire, nous voulons dire, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Et nous pouvons nous exclamer, nos cœurs ne brûlaient-ils pas alors qu'il parlait avec nous? Tu es le ressuscité, le vivant, celui qui parle et qui agit. Sauveur, sauve les perdus, guéris les malades, délivre et bénis par grâce. Je te remercie de l'avoir fait. Alléluia. La foi est ancrée dans ta parole et tu as proclamé. Tout est accompli. Je te remercie, Seigneur fidèle, car cette phrase est écrite dans la Bible. Alléluia! C'est accompli! Mon Jésus t'a rendu libre. Oh Dieu, ensemble, nous te remercions pour cela et nous glorifions la puissance de ton sang. Nous te remercions pour ta parole révélée par l'Esprit. Et nous te prions d'être maintenant avec nous tous par grâce au nom de Jésus. Amen.